Ouellette. En direct.
On est comme dans le tombeau, là.
En vacances.
Radio X.
Député du Parti conservateur du Canada dans Mégantic-l'Érable-Lobinière, il s'appelle Luc Berthold. Il nous fait plaisir d'être avec nous. Bonjour, M. Berthold.
Bonjour à vous trois.
Comment ça va?
Ça va bien aujourd'hui.
Ça va bien aujourd'hui. Hey, mais en fait, c'est une vraie question quand je dis comment ça va pour plusieurs raisons, dont l'une où 2025, vous nous avez appris que vous avez eu le cancer de la prostate.
Oui, ça a commencé comme ça.
Puis, comment ça va aujourd'hui?
C'est pour ça que j'ai dit ça, ça va bien aujourd'hui.
OK. Il y a
des journées plus difficiles, effectivement. C'est pas juste le cancer de la prostate, là, c'est l'autre nouvelle, le décès de mon fils.
Oui,
aussi,
on va y venir.
Qui fait en sorte qu'il y a des journées qui sont meilleures, il y a des journées qui sont pires que d'autres. Aujourd'hui, c'est une belle journée. Je suis avec mes deux petits-enfants. Mm. Ils sont devant la télé pendant qu'on se parle. Mm. Donc, effectivement, il y a des beaux côtés quand même. Il ne faut pas... Faut pas tout dramatiser, même si c'est quelque chose dont on se relèvera probablement jamais. Faut être capable de profiter de ces petits moments-là. Puis aujourd'hui, ben, je suis très, très heureux d'être avec eux. Puis ça me fait plaisir. C'est pour ça que c'est une belle journée aujourd'hui.
Puis vous le soulignez d'entrée de jeu, donc on va y aller. Vous avez parlé de la perte de votre fils qui s'est enlevé la vie un peu plus tôt. Le sujet qu'on veut aborder avec vous, on va y revenir à votre garçon, mais juste avant, oui, c'est important de le mentionner, c'est qu'en juin, vous avez déposé le projet de loi C-231 qui est pour modifier la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Et l'objectif, c'est d'aider les jeunes à avoir accès à des programmes de traitement pour être aidés plutôt qu'à être punis par la justice. Étrangement, de ce que j'en saisis, c'est que si on commet un crime quand on est un adolescent, au lieu d'avoir de l'aide, on est puni.
Ben écoutez, c'est pas aussi simple que ça. Souvent, tout dépendant du crime, tout dépendant de comment ça s'est fait, le système de justice est très différent au Québec qu'ailleurs aussi. Certains juges au tribunal de la jeunesse vont permettre à des jeunes d'avoir accès à des ressources, de faire du travail communautaire ou des choses comme ça. Malheureusement, dans la loi, il n'y avait pas la possibilité pour un juge d'imposer un traitement. Parce que pour moi, la dépendance, quand ça survient, ça peut être dû à toutes sortes de choses. Soit l'influence des amis, soit que le jeune trouve dans ça un remède à un problème qu'il a depuis longtemps, puis finalement, avec la drogue, ça m'a permis enfin d'être bien une fois dans ma vie. Donc ça cache un problème peut-être de santé mentale, de mal-être, il y a plein de choses. Puis dans la loi, il n'y avait pas la possibilité pour les juges de dire, écoute, avant de t'imposer une punition, parce que souvent, vous le savez, quand on consomme de la drogue, pour les jeunes, là, ça coûte cher. Puis à un moment donné, ben les parents ne fournissent pas, la job ne suffit pas, donc tu commences à commettre des délits pour te procurer de la drogue. Mm-hmm. Puis ça, c'est le cercle de la dépendance, c'est le cercle vicieux que j'appelle. Puis ça, à un moment donné, ben quand un jeune arriverait devant un juge, le juge pourrait lui donner cette opportunité-là. Écoute, si tu veux aller te faire soigner, je vais t'imposer un traitement, puis avant de te punir, on va te laisser faire ton traitement. Puis après ça, le juge peut retarder donc sa décision à plus tard. Et c'est ça que je veux permettre avec ce projet de loi-là, c'est 231, que le mot traitement soit inclus dans la loi 1, mm-hmm. pour qu'on puisse reconnaître que la dépendance, c'est pas juste tout le temps parce que la personne veut consommer de la drogue à tout prix, là. C'est pas vrai, oui. C'est pas comme ça. Mm-hmm. Et ça, j'ai assez d'expérience en arrière de moi pour pouvoir vous le dire. Puis, de parler de traitement, puis de parler de santé mentale en même temps qu'on parle de dépendance dans la loi. Pour moi, c'était extrêmement important pour que les juges aussi allument là-dessus. Et puis, après ça, ben si ça peut amener un jeune, parce que, vous savez, à cet âge-là, si on propose aux jeunes d'aller suivre un traitement, un, il ne verra pas qu'il y a un problème. Deux, ça ne lui tentera pas. Puis trois, il va faire à sa tête comme d'habitude.
Parce qu'on est dans la tête d'un adolescent, là.
Bon, oui, c'est ça, exactement. Là. On est dans la tête d'un adolescent. Là. Il n'a pas de problème, ça va bien, il est avec ses chums, puis tout va bien. Mais si un juge lui donne ça, cette opportunité-là, puis que ça lui donne ce que j'appelle, il frappe son mur à ce moment-là, bien, peut-être qu'on va en sortir un de ce cercle vicieux là, de la dépendance qui mène à la criminalité, qui amène à d'autres choses.
Parce que
c'est... Oui, allez-y.
Ah ben, j'allais simplement dire que c'est le parcours de votre propre fils, David. Vous en avez fait une entrevue un peu plus tôt avec... à Radio-Canada, entre autres, pour parler du parcours de votre garçon. Puis quand on est parent, ça nous brise le cœur en quatre. Parce que quand on devient parent, ben on fait... Normalement, les bons parents font en sorte que nos enfants n'y arrivent à rien puis qu'ils soient bien et qu'ils soient heureux. Et c'est pas le parcours qu'a eu David, non pas à cause des parents, mais parce que dans sa personnalité, c'est ma perception, vous me corrigerez si j'ai tort, le fait qu'il il a vécu une première brosse à 13 ans, qu'il a eu peut-être des difficultés mentales et puis un peu plus tard, et il sombrait dans la drogue et... Il avait l'impression qu'il n'était pas capable de vivre de façon sobre. Et exactement. En 2025, il s'est enlevé la vie. Et ça, pour un parent, je vous entendais en début d'entrevue dire, je ne sais pas si je vais passer au travers un jour. Quand on lit une histoire comme ça, ça affecte n'importe quel humain. Là.
Oui, vous avez dit en quatre morceaux, mais je vous dirais en mille miettes. Mm. C'est quelque chose que je souhaite pas. Puis depuis que c'est arrivé, depuis qu'on a parlé un peu, il y a tellement de gens autour de moi à qui c'est arrivé. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre de témoignages que j'ai reçus de personnes à qui c'est arrivé, qui ont perdu un jeune par suicide. Puis ces gens-là cherchent juste à être capables d'avoir de l'aide, d'être capables d'en parler. Je pense que le fait d'en avoir parlé publiquement, ça permet à certaines personnes d'aller mieux parce que on se sent pas bien quand on est un parent et qu'on traverse une chose comme ça. Je parle de tout l'épisode avant, la consommation de drogue. Puis David, là, c'était pas un bum, comme on peut dire, là. Puis pas que j'en ai contre les bums, là, mais dans le fond, c'était pas un bum. Là. Si vous l'aviez rencontré, il était super poli, il était gentil avec tout le monde, mais il avait son problème de dépendance de soir puis de fin de semaine. Puis à un moment donné, ça a pris le dessus sur beaucoup d'autres choses. Mais personne qu'il croisait dans la rue à tous les jours au travail ne pouvait pas deviner là, qu'il était comme ça. Puis ça, ben c'est malheureux, mais ça arrive tellement souvent autour de nous. Des fois, il faut juste s'ouvrir les yeux un peu. Puis vous avez mis le doigt sur une autre chose aussi. Effectivement, c'est pas d'où on vient qui fait en sorte que les jeunes vont consommer ou ne pas consommer. Oui, peut-être qu'il y a un petit peu plus de consommateurs chez les gens un peu moins nantis, un peu moins avec un peu moins de moyens. Mais il y en a, comme chez nous, on n'avait pas de problème d'argent, là. C'est pas ça, là. Puis on soupait en famille à toutes les fins de semaine, puis David était là. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'on l'ait comme laissé. L'école nous a pas aidés, personne nous a avisé. À un moment donné, ça a été long qu'on se rende compte de ça. Oui, on a été mis au courant de la première brosse, mais pour la consommation de drogue, le fait qu'il était pas là sur l'heure du midi à l'école, qu'il était toujours à l'extérieur, ça, des choses qu'on savait pas.
Parce que c'est important ce que vous dites, là. Donc, il n'y a eu aucune communication du fait que votre garçon, votre fils, n'allait pas à l'école, manquait des cours et qu'il y avait une consommation. Il n'y a personne qui a communiqué avec vous pour vous avertir.
Bien, c'est ça. Il ne manquait pas de cours, mais il n'était jamais à l'école dans les moments libres. Dans le fond, il sortait de l'école, puis il s'en allait, puis... ça a pris quelques temps avant qu'on sache qu'il ne mangeait pas son lunch à l'école, qu'il participait pas aux activités, puis tout ça, puis il était toujours ailleurs. C'est ça. C'est pas nécessairement de manquer des cours. Il y a plusieurs façons de pas être à l'école. Hein. Mm-hmm. Puis ça, on le savait pas. Puis les premières fois qu'on a entendu parler, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont fouillé sa case parce qu'ils soupçonnaient d'avoir de la drogue dans l'école. Donc, il me semble que s'ils sont allés le soupçonner d'avoir de la drogue à l'école, avant ça, il aurait pu nous en parler. Mm. Je ne sais pas si vous comprenez,
oui,
là, on aurait pu avoir une
bien.
Communication avant. Puis par la suite, dès qu'il a passé 14 ans, eux autres l'ont référé à une travailleuse pour l'aider, une travailleuse sociale, un agent de je me souviens pas, de prévention en toxicomanie ou des choses comme ça. Puis cette personne-là ne peut pas nous parler s'il ne lui donne pas l'autorisation.
Comment on prend ça à 13-14 ans quand notre enfant, parce que moi, je suis dans ces eaux-là, les deux bras me tomberaient. Là. Je sais pas si je suis... Est-ce qu'on se sent naïf? Est-ce qu'on se sent trahi? Comment on sent à ce moment-là quand on ne se doute pas que notre enfant consomme et qu'on finit par l'apprendre un peu comme ça dans les airs?
Bien, je pense qu'il y a des signes. Moi, la première brosse, en tout cas, ça a été un signe qu'il fallait être plus vigilant. Mais comme on peut le constater, la vigilance, même si on le sait, c'est pas toujours suffisant. Ça prend de l'aide autour aussi. On se pose toutes les questions que vous pouvez vous imaginer. Oui. J'ai-tu bien fait? Où est-ce que je l'ai échappé? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais-tu pu faire mieux? Comme parent, on se met en doute. Après ça, moi, j'ai trois enfants avec David. Donc, mes deux filles vont super bien. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent pour mon fils qui n'a pas marché? Pourtant, tout va bien pour mes deux filles. Il y a tellement de questions, puis je pense qu'à un moment donné, c'est là qu'il faut que tu arrêtes de te poser toutes ces questions-là, puis que tu commences à penser, est-ce que lui avait quelque chose aussi? Et c'est ça, malheureusement, les diagnostics de santé mentale, les diagnostics, là, on sait qu'il était dépendant affectif. OK? Mais est-ce que si le système de santé nous aurait permis d'avoir accès plus tôt à des ressources, est-ce qu'on aurait pu l'aider avec des ressources en traitant d'autres choses que la dépendance? Quand c'est rendu à la dépendance, on traite la dépendance, on dit faut que tu arrêtes, mais on traite pas la cause pourquoi il est dépendant. Là. Puis ça, c'est un autre problème aussi actuellement. Puis c'est pour ça que le projet de loi est là. Puis je sais qu'on va avoir un autre défi après parce que des ressources, il n'y en a pas plus dans le système. Donc même si ce projet de loi-là passe, il va falloir que les gouvernements, je pense qu'il y a une campagne provinciale qui s'en vient, là, ce serait bien que les partis s'engagent à mettre des ressources disponibles pour les jeunes qui vont avoir justement cette possibilité-là maintenant de se faire traiter, de ne pas attendre 6 mois avant d'avoir un traitement, parce que c'est maintenant que ça presse. Ou quand ils veulent aller se faire traiter, vous savez, un adolescent, là, quand il dit c'est maintenant, il faut que ce soit maintenant, parce que demain, il va avoir changé d'idée. Là.
Exactement. Puis ça fait... Ça résonne beaucoup ce que vous dites là, concernant vos autres enfants et David lui-même, dans le sens où il y a beaucoup de spécialistes là, qui de plus en plus sortent en disant que la dépendance, c'est peut-être un gène que certaines personnes ont plus que d'autres. Il y a quelques théories qui abondent dans ce sens-là. Ceci étant, l'incompréhension que vous avez face à ce qui lui est arrivé, est-ce que lui avait la même face à ce qui lui arrivait à ce moment-là? Est-ce que David était conscient que c'était problématique, sa consommation, ou parce qu'à 13-14 ans, on est dans des premières expériences, on est dans un âge d'innocence aussi, il ne se rendait pas compte de tout ce que ça lui faisait?
Ben, je pense que c'est ça. Au début, c'est faire comme les autres. Puis comme j'ai dit, peut-être un petit soulagement. Là, à un moment donné, il a perdu son grand-père, il a une peine de cœur, puis David était dépendant affectif, mais à ce point-là, on ne pouvait pas l'imaginer. Là. Puis on ne pouvait pas penser que c'était une maladie. C'est difficile de revenir puis de rebrasser tout ça là, puis d'avoir des réponses précises aux questions. Puis ça, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile depuis que j'en parle là. C'est qu'à chaque fois il nous revient des, oui. des petits moments, des petits bouts, puis ah oui, c'est vrai, il est arrivé ça. Je sais que la perte de son grand-père, ça a été quelque chose. Après ça, une grosse peine de cœur, ça a été je pense que cette fois-là, on l'a sauvé parce qu'on était intervenu rapidement. Puis par la suite, ben, il s'est mis après sa peine de cœur, c'est là que ça a vraiment dérapé, une très grosse peine de cœur, là. Puis c'est là qu'il s'est ramassé, il s'est fait arrêter, puis c'était son premier mur. C'est ça que je disais, le fameux mur, là, qu'il faut que le jeune frappe. Puis quand il a frappé son mur, après ça, il a connu sa conjointe, qui ont eu 2 enfants avec qui je suis aujourd'hui. Puis ça a été bien pendant quand même 5 ans, là, 5 à 6 ans, jusqu'à temps qu'un soir, juste comme ça, entre amis, ils décident d'y retoucher. Puis donc, la dépendance n'était pas soignée. Là.
Est-ce qu'on devrait rendre plus accessible la thérapie? Puis je vous ai entendu parler là, des programmes aux jeunes, mais la thérapie au sens large, là, les gens qui ont des problèmes de consommation n'ont pas toujours les moyens d'aller en thérapie parce que c'est cher. Puis quand tu es dans un problème de consommation... Bien souvent, tu es pauvre, tu prends ton argent, tu l'amènes en consommation, tout ton univers tourne autour de ça. Il existe des programmes subventionnés, mais c'est long avant d'avoir une place, puis les places sont limitées. Est-ce que vous pensez que le gouvernement devrait mettre en place des programmes où on ouvre des centres de thérapie pour accueillir des gens sans que ça coûte la peau des fesses?
Ah, tout à fait, tout à fait. Puis c'est pour ça que j'espère que les partis politiques qui sont à l'écoute actuellement au provincial vont mettre ça dans leur programme, parce qu'avec le projet de loi qui s'en vient, il va y avoir de plus en plus de pression pour que ces jeunes-là puissent avoir accès à un traitement rapide. Puis ça, c'est, d'après moi, c'est la clé. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas cette possibilité-là dans la loi sur le système judiciaire pour les jeunes contrevenants, j'ai dit, puis ça existait pour les adultes, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est là qu'on a trouvé, écoutez, c'est vers ça, on s'en va travailler, nous. Puis, effectivement, c'est très, très cher, une thérapie. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a des grands délais pour tout ce qui est thérapie publique. Puis, une thérapie n'est pas nécessairement, comme je disais, gage de succès du premier coup. Mm-hmm. Mais pour certaines personnes, oui. Et si on peut aider les gens, comme possible, à se rendre compte de vers quoi ils peuvent se diriger s'ils prennent en main. Bon, je pense que c'est notre rôle comme société. Je ne peux pas concevoir qu'on laisse des gens aller dans la rue comme ça, qui se ramassent un peu partout. Là, vous le voyez à Québec, on le voit même dans nos régions maintenant, de plus en plus de jeunes qui n'ont plus de domicile, qui vivent dans des tentes. La drogue qui est de plus en plus forte, qui est de plus en plus disponible pour ces jeunes-là. C'est aberrant que comme société, on regarde ça aller, puis tout ce qu'on pense, c'est à défaire les campements plutôt que d'essayer d'aider ces gens-là.
Oui.
Puis on veut les aider, nous, les conservateurs. Les gens me disaient souvent, depuis que je fais des entrevues, « Moi, mais vous autres, les conservateurs, vous n'êtes pas pour des peines plus sévères, puis tout ça. » Je dis « Oui, oui, pour ceux qui vendent et qui font une fortune avec la drogue, c'est sûr que je les veux derrière les barreaux le plus vite possible. » Mais en même temps, comme société, on a aussi le rôle de protéger notre monde face à ces trafiquants-là, face à ces vendeurs de drogue-là qui font tout pour rendre ça possible. Moi, je me souviens, j'avais dénoncé à l'époque la légalisation de la marijuana. J'avais peur. Parce que je me suis dit, on nous disait tout le temps, on va enlever l'argent des mains du crime organisé, puis l'État va s'en occuper.
Ben oui, vraiment arrivé,
hein? Ils sont organisés, ils vendent du stock encore plus.
Ben oui.
C'est plus dangereux. C'est épouvantable. Il faut qu'on s'en occupe comme société. C'est pas normal qu'on accepte ça, puis c'est pas normal qu'on fasse pas tout en notre possible pour qu'un jeune qui envoie un signal d'alarme ou qui se fait arrêter, ou que les commissions scolaires ou que les écoles fassent pas un petit geste pour dire aux jeunes, « Hey, viens-t'en, toi, je pense que faut qu'on se parle et qu'on t'envoie quelque part. »
Est-ce que vous avez, à un moment donné, repensé à votre rôle, c'est-à-dire d'être député quand il nous arrive quelque chose de... excessivement personnel. Dans ce cas-ci, on parle quand même le deuil de son propre enfant qu'on ne veut jamais vivre. Vous travaillez au public quand même, vous êtes député. Est-ce que vous avez songé à un moment donné à vous dire « Je vais quitter mes fonctions puis m'en aller à la maison, barrer les portes, fermer les fenêtres puis plus rien savoir de personne » ou au contraire, ça vous a aidé?
Je ne sais pas parce que... on a parlé un peu au début, là. Moi, Quand mon fils s'est enlevé la vie, j'avais une opération prévue 2 jours après pour m'enlever la prostate. Donc, ça a fait beaucoup, beaucoup d'émotions, tout ça en même temps. Puis, pas longtemps après, on a déclenché la campagne électorale. Donc, il fallait que je prenne à ce moment-là une décision pour tout le reste de ma vie. Ben, le reste, en tout cas, pour les années qui allaient suivre.
Oui.
Faire campagne électorale en deuil avec l'espérance que l'opération a bien déroulé. Donc, il y a eu beaucoup de choses. Là, puis j'avoue que ça a été beaucoup en même temps. Mais d'un autre côté, quand je m'étais lancé en politique fédérale, David était assis autour de la table avec toute la petite famille que j'ai, ses 2 sœurs, mon épouse Caro, qui est toujours là, qui m'accompagne là-dedans. Puis c'était lui puis eux ensemble qui m'avaient dit, ben, retourne faire de la politique fédérale, papa, t'aimais ça, go, fonce. Mm. Je pense pas que c'est ce que David aurait voulu, que j'arrête tout. Puis je voulais pas arrêter tout non plus pour mes enfants, puis pour les autres. Puis en même temps, à un moment donné, j'ai réalisé, hey, c'est peut-être le bon poste que j'ai pour être capable de faire quelque chose pour les autres jeunes. Je peux plus rien faire pour mon fils, mais si je peux aider pour les autres jeunes, ben, je pense que je suis pas un meilleur endroit en ce moment. Je peux parler avec beaucoup de gens. Les gens vont me répondre au téléphone si j'appelle. J'ai pu déposer un projet de loi parce que cette fois-là, j'étais chanceux à la loterie des projets de loi privés. J'ai été pigé au tout début parce que c'est pas vrai que c'est facile de déposer un projet de loi privé au fédéral. Là, c'est un tirage au sort parmi les 343 députés. Donc, je suis arrivé 30e. Ben, j'ai pu le déposer, puis je suis content. Maintenant, je veux le faire progresser. On devrait le faire sortir de la Chambre des communes pour l'envoyer au Sénat cet automne pour qu'il soit adopté le plus rapidement possible.
Mais, le 22
mais
septembre
question,
prochain,
là, oui. Oui, ça va peut-être être en octobre finalement. Okay. C'était le 22, ça va peut-être être en octobre. On est en train de parler là, de l'horaire, mais en tout cas, c'est une semaine ou deux après. Ce sera vraiment pas long après. Mais pour en revenir à la question, est-ce que j'ai songé, à un moment donné, quand ça arrive, tu songes plus à rien. Là.
Ouais.
Tu sais, c'est pas... t'as de la peine. Mm. Puis si tu y penses pas tout de suite, ça vient plus tard. Est-ce que je vais continuer... tu sais, la maladie a fait en sorte que je suis resté chez nous pendant assez longtemps pour avoir le temps de juste me déposer avec mon épouse. Mais après ça, le rythme de la vie a repris le dessus, puis j'ai continué. Mais il y a tellement de gens qui ont de la misère à passer à travers ça. C'est pour ça que je le dis aux gens, n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas à parler aux gens autour de vous que c'est difficile, parce que c'est vrai que c'est difficile.
Ça va être débattu en septembre ou en octobre prochain. Est-ce que vous avez une bonne oreille du Parti libéral?
Non, du Parti libéral, du Bloc québécois, du okay. NPD, du Super. Parti vert, tout le monde est d'accord avec le projet de loi. J'ai même le gouvernement a même suggéré des modifications pour l'élargir aussi au traitement, oui, de la dépendance, mais d'autres formes de traitement que les jeunes pourraient avoir besoin. Quand on présente un projet de loi, on ne veut pas nécessairement en mettre trop parce qu'on veut que ça passe.
Oui. T'sais.
Là, tu essaies de te limiter à l'essentiel. Mais eux ont dit, écoutez, on devrait en profiter pour faire ça, ça, ça. Puis j'ai parlé avec les gens, les légistes du ministère de la Justice quand on est passé en comité le printemps dernier. Puis ils sont vraiment contents qu'on s'en aille dans cette direction-là. Donc, je suis confiant que les prochaines étapes vont bien. Que ça va bien se dérouler.
Monsieur Berthold, je le sais que c'est pas évident, enfin... Je prétends qu'à votre place, ça ne doit pas être évident de faire ce que vous avez fait, de nous avoir parlé à cœur ouvert avec beaucoup de franchise et beaucoup d'émotions. On le ressent via texto. Merci de l'avoir fait. Merci de nous avoir fait confiance pour vous livrer. Puis on est de tout cœur avec vous. Beaucoup d'amour via texto. Vous ne pouvez pas les lire, mais moi, je les lis. Si jamais vous avez besoin d'aide, il y a du soutien téléphonique. En tout temps, il y a SOS Suicide, entre autres. Et bien sûr, il y aura assurément un suivi qu'on va faire de notre côté pour votre projet de loi. Nos sympathies, beaucoup d'amour et merci encore énormément. Monsieur Luc Berthold, député du Parti conservateur du Canada dans Mégantic, l'érable, le Binière.
Merci beaucoup à vous de m'avoir permis d'en parler pour faire en sorte que les gens qui passent à travers ce genre d'épreuve-là se sentent un petit peu moins seuls.
Merci.
Merci, bon. Au revoir.
Merci, au revoir. Ouf!
Ouais.
Ouh! Ben j'ai pas, quant à dire n'importe quoi, j'ai pas de mots pour dire... Je trouvais ça bien émouvant à un moment donné. À un moment donné, j'ai maudit que ça doit faire mal. Hein? On l'a pas vécu, puis ça me faisait mal. Ça me faisait mal de l'entendre. Mais ça arrive. Puis... On dit tout le temps d'en profiter, hein? Est-ce que c'est vrai quand on entend des affaires de même? Profitez-en. On revient.
Ouellette.
Vraiment dans sa coche, là.
En direct.
On fait une petite pause, puis on revient dans pas long.
Radio X.